aux cinq fêtes qui figurent dans la Torah, ils ont ajouté deux fêtes. Ces deux fêtes ne sont pas très loin, disons, elles sont causées par des événements qui, dans l'histoire, ne sont pas tellement loin l'un de l'autre. La fête de Pourim, le cadre, c'est l'exil dans lequel les Bnei Israël se trouvent, c'est l'exil de Perse. Alors je vous rappelle, Nabuchodonosor a détruit le Beth Amikdash et il a exilé les Juifs en Babylonie. C'était, paraît-il, un exil assez dur. Mais les Babyloniens ont été battus par les Mèdes et les Perses. Donc les Juifs qui étaient là-bas, ils n'ont pas bougé, mais ils ont changé de maître. Donc ils étaient confrontés à une nouvelle civilisation. Jusqu'à présent, la civilisation qu'ils devaient affronter, c'était la babylonienne. Et maintenant, ils doivent affronter la civilisation perse. Alors, ce qui s'est passé avec les Perses, on a eu pas mal de problèmes, mais le grand problème qu'on a eu avec les Perses, c'est le suivant. C'est ce qui est raconté dans la Megillat Esther. Le problème qu'on a eu avec les Perses, c'est qu'on a eu affaire à la première solution finale, en vérité. D'accord, Aman, il a inventé la première solution finale. Seulement, à la limite, on a pu faire vraiment la fête quand on s'en est sorti. Parce que c'est une solution finale qui ne nous a coûté, qui a coûté zéro mort du point de vue juif. La deuxième solution finale, cette échelle-là, c'est celle de 33-45, et malheureusement, celle-là, même si on était content, très heureux quand ça a fini, mais on ne pouvait pas vraiment se réjouir pleinement dans la mesure où c'est une solution finale qui a coûté 6 millions de juifs, donc de morts.
C'est pas une solution finale.
Non, parce que c'était pas aussi large. Le monde n'était pas entièrement conçu. C'était pas pour le monde entier. C'était pas, disons, c'était beaucoup de monde, mais pas vraiment le monde entier. Mais c'est vrai que c'était une tragédie de première grandeur, mais ça n'avait pas la dimension de l'Empire perse ou de l'Empire du Troisième Reich, je veux dire. Pardon? Elle parlait il y avait des Xérotes.
Meniski.
Il y avait un grand antisémite qui s'appelle Khmelnytsky. Khmelnytsky, c'était un Ukrainien, je pense, quelque chose comme ça, et qui semait la terreur sur les Juifs. Alors, mais ça a touché beaucoup de monde, mais pas le monde entier. Et donc, c'est important de se souvenir que Pourim, c'est la fête de cette sortie de la solution finale, qu'on s'est sorti d'une solution finale, c'est fondamental. Et surtout que nous, maintenant, quand on réfléchit, on a Pourim dans un jour, et puis et Pessah dans un mois. Donc on a l'impression c'est Pourim avant Pessah, quelque part. Mais en fait, Pourim, ça a lieu Dans le dernier mois de l'année. Le mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui concerne un cycle qui a commencé Pessah dernier et qui va se terminer à la fin du mois d'Adar, qui va être suivi d'un nouveau cycle qui va commencer avec Pessah, avec le Pessah à venir. Donc, en fait, on change du tout, on change de cycle. Si vous voulez, entre Pourim et Pessah. Pourim, c'est l'année dernière, quoi, et Pessah, c'est la nouvelle année. Et alors, si on pense ça comme ça veut dire qu'avant Pessah, avant la nouvelle année, il y a eu une espèce de rapport avec la mort dans l'année précédente, qui terminait le cycle de l'année précédente. Ça veut dire que pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, il faut la mort de l'ancien, en fait. Et du coup, si on y réfléchit, ça a l'air d'être une constante de l'histoire. Prenez le Maboul. Le Maboul, c'est la destruction du monde tel qu'il était, 10 générations après Adam Harishon. C'est une destruction qui n'est pas totale, puisqu'il y a une famille qui en réchappe, la famille de Noir. Mais donc, à l'époque de Noir, c'est un nouveau monde. Si vous voulez, par exemple, c'est un monde dans lequel Noah, il a une mitzvah que n'avait pas Adam HaRishon. Le Ever Minachai, l'interdit de Ever Minachai, c'est la mitzvah qui n'a pas été donnée à Noah, parce que Noah n'avait pas le droit, pardon, Noah, à Adam, je voulais le dire, parce que Adam n'avait pas le droit de tuer les animaux pour les manger. Il pouvait manger de la viande, mais de la viande des animaux qui étaient morts de mort naturelle. Ou bien tués par d'autres animaux, peut-être, mais il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas tuer pour manger. Il mangeait de la viande. C'est marqué qu'il y avait des malachim qui leur faisaient des méchouis dans le Gan Eden. Et donc, Noah, il commence un nouveau monde avec une mitzvah en plus, quoi, par exemple. Et puis, l'humanité, elle se développe. On passe 10 générations et il y a un échec qui se traduit par une nouvelle forme de mort qui s'appelle dispersion. C'est-à-dire, c'est l'éclatement. Le monde était concentré, les gens étaient unis, et Hachem les a dispersés. Et donc, ça aussi, c'est une forme de mort. C'est des morts faibles, si vous voulez, mais c'est une forme de mort. À ce moment-là commence Abraham. Après cette mort-là, commence une nouvelle époque, l'époque d'Abraham. Abraham, dans sa trajectoire personnelle, lui aussi, il commence quelque chose de nouveau après une peine de mort. Il était dans la fournaise, je vous rappelle, ce n'est pas un lieu de villégiature. Et donc, il était exposé à la mort et il a été sauvé de la mort, mais il a vécu une situation de mort. Chez Abraham, avec cette fournaise. Et puis la situation d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., ça débouche sur un esclavage, l'esclavage, l'exil et l'esclavage en Égypte. De nouveau une forme de mort. Et cette forme de mort, elle précède la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la naissance, une nouvelle forme de vie, quelque chose de nouveau. C'est nouveau, on va recevoir la Torah, ce que les Avot n'avaient pas. Et là, les Bnei Israël vont très vite. Là, ça va très très vite. On arrive au sommet là-haut. Et puis, ça retombe dans la mort avec la condamnation à mort consécutive avec au veau d'or. Et Hachem donne une nouvelle occasion, une nouvelle situation. Ce qui permet au Bnei Israël de continuer. Voilà, il continue. Et disons que la peine de mort, elle est exécutée dans les 40 ans du désert, ce qui fait que les Bnei Israël, quand ils entrent en Eretz Israël, il n'y a personne, à part Yoshua et Kolev, personne n'avait 20 ans à l'époque de la sortie d'Égypte. Ceux qui avaient 20 ans et plus, ils sont morts. Et puis même si je vais très vite, David a un projet qui est réalisé par Shlomo HaMelech, construit le premier Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash, ce premier Beth Amikdash, il vit 400 ans à peu près, et il est détruit par Nebuchadnezzar, par Nabucodonosor, qui nous envoie en exil, de nouvelles formes de mort. Et de cette forme de mort, on sort. Parce que Cyrus et Achashverosh vont permettre aux Juifs de retourner en Eretz Israël et de reconstruire le deuxième Beth Amikdash, qui est un monde complètement nouveau. Et ce deuxième Beth Amikdash, au bout de moins de la moitié de son temps, Beth Amikdash, mais ce Beth Amikdash est profané et tous les Juifs, en fait, sont en train de se suicider quasiment comme Juifs avec le modèle grec. Tout le monde est acquis aux idées grecques et le Klal Israël, le Beth Amikdash devient un temple grec et les Bnei Israël deviennent grecs. C'est une mort, de nouveau une forme de mort. Et puis grâce au Hashmonaïm, il y a une forme de résurrection, en quelque sorte. On va nettoyer le Beth Amikdash et le réinaugurer. Ça va donner Hanouka. Et puis, de nouveau, à peu près 400 ans après, enfin, disons, après que le 400 ans, 410, 420 ans, pour le Beth Amikdash. Et puis les Romains le détruisent et ils nous envoient en galoute, de nouveau. Mais à ce moment-là, il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire, une vraie révolution, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a mis en place les structures qui nous ont permis de survivre. Un clan d'Israël sans le Beth Amikdash, c'était impensable. Le Beth Amikdash était tellement central dans la vie du clan d'Israël. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, de façon géniale, il a pensé, il a mis en place effectivement les structures pour un monde sans Beth Amikdash, un monde nouveau sans Beth Amikdash. Donc vous voyez, systématiquement, il y a toujours une forme de mort qui précède et qui permet la vie à un autre niveau. Mais en fait, cette forme de mort, elle existe dans le monde, en biologie aussi. Je veux dire, les cellules, elles meurent, elles ont un système pour mourir. Si elles ne mouraient pas, on ne pourrait pas vivre, quoi. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier, quand on se réjouit à Pourim, savoir pourquoi on se réjouit. Pas seulement, c'est pas, voilà, on se réjouit, on va boire un peu, etc. Manger, pourquoi on se réjouit? On se réjouit d'avoir échappé à une solution finale. Nous qui avons, qui sont les enfants ou les petits-enfants de gens qui ont vécu cette solution finale, qui ont vu ce que ça pouvait donner, une solution finale, on est bien placé pour savoir à quoi on a échappé. À une destruction totale, parce que c'était tout le monde connu quasiment, les Juifs étaient dans cet empire, et ils ont été tous tués. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur laquelle je voulais attirer l'attention, c'est les trois derniers psukim de la Megillah. Il y a une halakha dans la Megillah. Si on compare la Megillah au Sefer Torah, dans le Sefer Torah, si une lettre vient à manquer, le Sefer Torah, il est pas soul. Mais dans une Megillah, on peut s'être trompé et avoir écrit une Megillah dans laquelle il manque même plusieurs lignes. Ou peu que ce ne soit pas des lignes absolument fondamentales pour la compréhension, c'est pas grave, la Megillah, elle est cachère. Mais il y a trois versets au début et trois versets à la fin. Qui eux ne peuvent pas être sautés. On a besoin de ces versets-là. On a besoin que ces versets-là soient écrits dans la Megillah. Bon, les premiers versets, je sais plus ou moins, on arrive plus ou moins à comprendre de quoi on parle, mais les trois derniers, je ne sais pas vraiment. Trois derniers sont impératifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants que les autres, mais ceux-là, ils doivent être là, donc visiblement, ils ont une fonction. Les trois derniers, on ne peut pas dire que la fonction des trois derniers versets, quoi, il faudrait peut-être. Bon, les trois versets, c'est un premier verset qui dit que le roi a défini des imp il a prélevé des impôts nouveaux probablement. Deuxièmement, que si tu veux connaître des informations sur Mordechai, il faut pas regarder dans Wikipédia, il faut regarder dans les archives des Mèdes et des Perses. Là-bas, tu auras tout ce que tu veux savoir sur Mordechai. Donc, on voyait ces deux versets-là, ils n'ont strictement rien à voir avec la Megillah. Et le troisième verset qui dit que le juif Mordechai, il est numéro 2 dans la hiérarchie perse. Donc, c'est un fonctionnaire perse très haut placé. C'est un type bien. Il est grand pour les Juifs, il n'est pas spécialement grand pour les Goïms. Il est aimé par la majorité des Juifs, pas la totalité. Il est un shtadlan, il est quelqu'un qui, comme il a une certaine position, il a l'occasion d'essayer de dire des bons mots, des mots en faveur des Juifs. Au pouvoir, il parle avec le pouvoir et leur dit des choses qui peuvent être positives pour les Juifs. Et c'est quelqu'un qui aime son peuple, qui voilà. Bon, c'est-à-dire rien du tout, quoi. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui aurait manqué à la Maguila si ces trois versets n'avaient pas été dits. Bon, on connaît toute l'histoire de Purim, toute la Megillah. Alors, je vous dirai après ce que je pense, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas complètement satisfaisant, peut-être. Peut-être vous aurez une idée, je ne sais pas, on verra. Alors, si on va regarder d'un peu plus près, qu'est-ce qu'elle raconte, cette Megillah? D'abord, elle commence par Vayhi. Et vous savez que quand quelque chose commence par Vayhi, ça annonce des tuiles, ça annonce des malheurs. Alors effectivement, il va y avoir un malheur. Alors qu'est-ce qu'on nous dit tout de suite? On dit que Achashverosh, il a fait un festin. Un festin de 180 jours, la moitié de l'année, ouais. Une demi-année de festin. Dans la Megillah, c'est pas marqué du tout. Pourquoi il a fait ce festin? Chazal explique pourquoi il a fait ce festin. Comme vous savez, l'exil dans lequel Nebuchadnezzar a envoyé les Bnei Israël, c'est un exil qui avait été annoncé par les Nevi'im. Et on savait que cet exil allait durer 70 ans. Tout le monde le savait, les goyim aussi. Et les rois, autour de la 70e année, ils voulaient absolument savoir quand. C'était quand l'anniversaire des 70 ans. Alors, ils ont essayé, ils n'ont pas trouvé. Parce qu'ils ne savaient pas quand il fallait commencer à compter. Alors que ce soit les rois avant Achashverosh ou après Achashverosh, ils comptent. Pourquoi ils comptent? Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'ils raisonnent de la manière suivante. Nebuchadnezzar, quand il a fait la guerre, il a fait la guerre et il a gagné la guerre contre le Dieu des Juifs. Mais le Dieu des Juifs a dit qu'il allait reprendre ses Juifs au bout de 70 ans. Mais si maintenant les 70 ans sont passés et qu'il n'a pas repris ses Juifs, alors ça veut dire que Nebuchadnezzar a vraiment définitivement vaincu le Dieu des Juifs et que c'est lui le Dieu des Juifs, puisqu'il a vaincu le Dieu des Juifs et ça fonctionne comme toutes les guerres. Il a vaincu, c'est lui. Il prend la place de celui qui l'a vaincu. Et donc, comme eux, ils sont les successeurs de Nebuchadnezzar, ils pensent que eux sont les dieux des Juifs. Alors, Achashverosh, lui, il est carrément, lui, il est sûr que les 70 ans sont passés. Donc c'est lui le Dieu des Juifs. Et il est très très cohérent. Il a fait un festin gigantesque auquel il a convié tous les gens importants. C'était sûrement cachère, etc. Les Juifs y sont allés aussi. Tout le monde y est allé. Mordechai, il n'a pas voulu y aller en tant que convive. Il était obligé d'y aller, alors il est allé comme serveur. Donc, il ne s'est pas assis à la table des convives. Et donc, Achashverosh, il est très logique. Puisqu'il est le dieu des Juifs, alors il va manger dans la vaisselle du dieu des Juifs. Et comme Nebuchadnezzar, quand ils ont gagné la guerre, ils ont évidemment fait main basse sur l'or et l'argent, donc sur la vaisselle en or aussi, eh bien voilà, il a mis cette vaisselle sur la table et il a mangé dans cette vaisselle. Et étant donné que c'est le Dieu des Juifs, il mange dans la vaisselle du Dieu des Juifs. Et donc les Juifs se sont retrouvés assis à un festin où il y avait des gens qui mangeaient dans la vaisselle du Beth-Amikdash. Personne ne s'est levé et parti. Après ce festin pour les gens importants, il a fait un plus petit festin, 7 jours, pour le peuple. Et Vashti a fait un festin pour les femmes. Il n'allait pas mélanger les hommes et les femmes. Et le 7e jour, Ahasvéros a une idée de génie. Il a décidé qu'il allait envoyer les nobles chercher la reine et l'amener du côté des hommes. On va la montrer à tout le monde parce qu'elle est très belle, mais elle doit venir avec sa couronne et elle doit venir, à part cette couronne, elle doit venir nue. Le problème n'était pas la nudité en tant que telle. Le problème, c'est que pour Ahasvéros, il avait toujours un problème. C'est que la vraie héritière, c'était elle, parce que c'est elle la petite fille de Nebuchadnezzar. C'est pas lui. Et donc, il a un problème. Et il veut apparaître comme étant le roi de plain pied. Alors quand il la voulait nue, il voulait qu'elle ne vienne sans aucun attribut royal, pour qu'il soit clair que tu es la reine, pas parce que tu es la petite fille de Nebuchadnezzar, ni parce que ceci ou parce que cela, mais tu es la reine parce que je l'ai décidé. Moi, Achashverosh, je t'ai fait reine. Et bien sûr que Vashti, qui était une sale bonne femme, mais pas idi complètement idiote, elle a très bien compris ce que voulait son mari et elle a dit, je ne viens pas. Et donc elle lui a fait honte en public. Et donc lui, il a joué, il a perdu. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? S'il réagit, ne réagit pas, alors il reconnaît que c'est elle le patron, quoi. Donc il n'est plus rien, lui. Prince consort, je ne sais pas quoi. Mais ce qu'il faut faire, c'est la tuer. Mais comment on peut tuer la petite fille de Nebuchadnezzar? Alors il dit aux gens, il dit à la cour, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il faut faire avec Vashti, avec la reine? Personne ne sait lui donner. Plus exactement, je pense, tout le monde sait ce qu'il faudrait dire, mais personne ne veut le dire. Et par conséquent, il sait pas quoi faire. Et il y a un certain Memucan, qui est le patron des nobles qui sont autour de lui, qui lui dit, écoute, tu peux tuer Vashti, je te couvre. Bon, c'est possible, il n'y a pas de problème. Et donc il le fait. Vous comprenez bien que ça donne un pouvoir à ce Memucan sur le roi qui est gigantesque, parce qu'à tout moment il peut lui dire, c'est moi qui t'ai fait roi. Ce Memucan, il a aussi un autre nom que vous connaissez mieux, il s'appelle Aman. Donc c'est Aman qui a donné le conseil. Enfin, pas le conseil, mais en tout cas, il a la permission. Alors, on a emballé ça ouais, la bonne manière, mais bon, c'était, il a tué Vashti. Et au bout d'un moment, il s'est aperçu qu'il n'avait plus de reine. Et probablement, il n'y avait personne dans son harem dont il pensait qu'il pourrait être la reine. Et donc, il ne sait pas comment faire. Bah, alors, il a tous les conseillers, ils arrivent à la conclusion que on va rassembler toutes les jeunes filles du royaume, toutes celles qui ont une belle apparence, et on va les préparer, etc. Et tu vas choisir. Très bien. Alors, on fait la chasse aux jeunes filles. Et puis, pour des raisons que je ne connais pas, il y a une femme qui est prise, qui, elle, n'est pas a priori une jeune fille. Une femme mariée, elle s'appelle Hadassa, elle s'appelle aussi Esther, elle est la femme de Mordechai. C'est pas écrit, hein, c'est pas écrit Mefourach dans Megillah, mais il y a des chazals qui disent comme ça. Elle est la femme de Mordechai, elle est prise, malgré qu'elle soit une femme mariée. Et comme vous savez, non seulement elle est prise dans la sélection, c'est elle qui est choisie. C'est elle qui devient la reine. Alors elle devient la reine. Alors bien sûr, on commence par faire un festin en l'honneur de la reine. Okay. Et puis, cette reine, elle a, comme elle est la femme de Mordechai, Mordechai l'a. Il la guide dans toute la mesure du possible et il lui dit qu'elle ne doit dire à personne qui elle est. Il faut qu'elle se taise, qu'elle ne dise rien. Bon, je ne sais pas ce que vous pensez, mais on ne peut pas imaginer un roi choisir une reine sans savoir d'où elle vient. C'est pas possible. Vous avez raison si vous pensez ça, sauf que pour la raison qu'on a dite sur Ahasvéros précédemment, pour lui, c'est pour un roi normal, c'est impossible. Pour lui, on peut le comprendre. Si vous demandez à quelqu'un d'où il ou elle vient. Alors, ça peut apparaître comme quelqu'un qui donne de l'importance au lieu d'où elle vient. Or, Achashverosh, c'est quelqu'un qui pense que la reine n'est reine que parce que lui, Achashverosh, l'a décidé. Et ce n'est pas parce qu'elle vient d'une province importante, ni qu'elle vient d'une grande famille, d'une famille très riche ou quoi que ce soit. Elle n'est reine que parce que lui, Achashverosh, l'a décidé. Et c'est pour ça qu'il ne pose pas de questions. Est-ce que poser des questions, ça ferait comme si il y avait quelque chose d'important en dehors de lui? Donc il ne lui demande rien. Alors, on a dit, vous avez parlé déjà du complot. Mordechai a donc, il a une information. Il a entendu des comploteurs qui complotent pour tuer le roi. Et ces gens, ils n'ont pas pris suffisamment de précautions parce qu'ils parlent une langue que personne ne parle. Donc ils sont sûrs que personne ne les comprend. Manque de peau pour eux. Mordechai, lui, il comprend cette langue. Parce que comme vous savez, on ne peut pas condamner à mort quelqu'un si le contact qu'on a avec lui ne se peut que à travers un interprète. Il faut absolument pouvoir parler directement et entendre directement une personne pour pouvoir la juger. Et donc, les gens dans Sanhédrin, ils se sont plus ou moins répartis les différentes langues, assez rares. Et donc, il se trouve que Mandraï, cette langue-là, il la comprenait, donc il a su qu'il y avait ce complot. Et là, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on laisse le complot se dérouler? En espérant que ce roi-là va mourir et que le prochain sera meilleur? Ou est-ce qu'on empêche le complot parce que lui, au moins, ce roi qu'on a maintenant, on sait qui il est, on sait jusqu'où il va, on s'est habitué et on ne veut pas prendre le risque d'avoir quelqu'un qui est encore plus difficile. Finalement, il a décidé de dénoncer le complot et Esther, elle reçoit le message par des gens qui lui ont transmis, donc, au nom de la part de Mordechai. Et Esther dit au roi, elle lui dit, il y a un complot, etc. Et elle dit que l'information, elle l'a par Mordechai, le juif qui est à la porte du palais. Alors moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est une faute gigantesque de la part d'Esther. Parce que qu'est-ce que la reine de Perse a à voir avec le juif qui est à la porte du palais? Si elle veut pas qu'on sache qu'elle est juive, alors elle doit faire attention à ne pas avoir de relations même très indirectes. Enfin, qu'on ne sache pas qu'elle a des relations, même indirectes, avec un juif. Mais malgré tout, ce qu'elle a dit là, que c'est au nom de Mordechai, c'est ce qui a été écrit dans les archives. Je peux tout de suite vous dire ce que vous savez d'ailleurs, c'est que quand Achashverosh avait ses insomnies et qu'il s'est fait lire les archives et qu'on a trouvé dans les archives que c'est Mordechai qui avait sauvé la vie du roi, alors, et que ça a entraîné le changement, ça a entraîné finalement la chute de Haman. Il y a beaucoup de bouleversements et puis après finalement, et donc ça veut dire que la Géoula, la libération, le sauvetage, il a eu lieu grâce au fait que Esther a mentionné Mordechai. Si on avait simplement écrit dans les archives, le roi a eu la vie sauve parce que quelqu'un a dénoncé le complot, les Juifs n'auraient pas pu en profiter. Et donc, de là, on apprend une halakha qui est que Adavi, Amevi, Davar, Bishem, Omro, Mevi, Geoula, Laolam. Celui qui rapporte quelque chose au nom de celui qui l'a dit, qui l'a dit, cette chose, il amène la libération dans le monde. N'est-ce pas? Le sauvetage a eu lieu grâce au fait qu'elle avait dénoncé, elle avait dit que c'était Mordechai. Alors je reviens. Le Memouchan là qui avait permis à Achashverosh de tuer Vashti, finalement il arrive au pouvoir, il est nommé grand vizir. Et il obtient que le roi dise que tout le monde doit se prosterner devant lui. Les Juifs, ils ont le droit de se prosterner devant un roi, devant un ministre, etc. Sauf que Aman, lui, il avait une espèce d'idole. Je crois que ça veut plutôt dire en fait, il voulait être honoré comme une idole. Il voulait pas être honoré comme un ministre, un grand vizir ou même un roi. Il veut être honoré comme une idole. Alors tout le monde se prosterne, sauf Mordechai. Et alors il y a des gens qui disent à Mordechai, tu es complètement fou, tu mets tout le monde en danger, ton peuple en danger, etc. Au début, Mordechai n'apparaissait, il était dans la masse, on ne le voyait pas vraiment. Mais ces gens-là ont dénoncé Mordechai. Et du coup, il était vu par Aman. Et par conséquent, Aman, il est en colère contre lui. Un type comme Aman, il a le pouvoir. Bon, il a le pouvoir de régler ce problème très facilement. Il n'a qu'à tuer Mordechai et c'est terminé. Seulement, son orgueil ne lui permet pas de s'attaquer à un petit juif, quoi. Que ça veut dire, moi, grand vizir, je m'attaque à un petit juif. Il faut quelque chose qui soit à ma hauteur. Alors, il a trouvé quelque chose qui est à sa hauteur. Je ne vais pas tuer le juif. Je vais tuer tout le peuple de ce juif. Il est très content. Et donc, il va demander au roi la permission de le faire. Il lui explique que les juifs, ils sont dispersés et qu'ils sont pas de grande importance, que, ils font pas comme tout le monde, on n'est pas les mêmes lois, etc. Et donc, t'as rien à perdre si on les fait disparaître, c'est des parasites. Et d'ailleurs, tu auras même à gagner parce que si tu es d'accord, alors je verserai au trésor public
J'arrête un
10
peu.
000. Pardon? Je
Un
verserai
peu
au.
abri.
Je verserai au trésor public 10 000 pièces d'argent. Ah, il y a une alerte. Ah,
Oui,
d'accord.
elle a dit qu'elle allait à l'abri, c'est ça.
D'accord. C'est Esther et Ivana aussi, elle est aussi en Eretz, je ne sais pas.
Oui,
Ah, c'est déjà de retour, Esther? C'est
elle
fini
a
la liste?
tra... Non, non, c'est la Trara qu'on a eu.
Ah, t'as eu seulement la trame.
J'essaie de regarder sur la carte. Apparemment, ça va être sur nous. Donc, on va aller peut-être se mettre en abri. Mais je vous garde.
D'accord.
Je vous garde.
Donc, De quoi? Bah, Dvorah, elle a sûrement dû aller aussi. Elle est là, Dvorah.
Non, elle va pas à l'abri. Elle n'a pas d'abri devant
Ah.
eux. Ah.
Ok. Je remercie Israël. Ok, donc il devient grand vizir, il obtient qu'on se prosterne et il décide qu'il va tuer tout le peuple de celui qui se prosterne pas devant lui, de Mordechai. Il obtient du roi la permission. Le roi, il lui donne même son sceau, C'est-à-dire que Aman va prendre des décisions, mais il va les signer à Achashverosh, les sceller à Achashverosh. Alors on envoie des lettres à tout le monde. Le 13 Adar, vous pourrez massacrer tranquillement les Juifs, hommes, femmes et enfants. Quand Mordechai apprend cette histoire, il pousse un énorme cri de douleur, souffrance. Donc Chazal disent que ce cri-là, c'est une façon de payer, une façon pour Yaakov, avec ses descendants, de payer pour le cri de Ésaü, quand Ésaü a compris que Jacob lui avait pris les brachot, il a poussé un cri énorme, très amer et tout. Chazal disent, ce cri-là, Jacob en est d'une certaine manière la cause, et ça va se payer. Et on l'a payé avec le cri de Mordechai. Et Mordechai, il a pris des vêtements de deuil, etc. Bon, je vous saute cette partie-là. Et finalement, il a dit à Esther, il faut que tu ailles intercéder auprès du roi pour annuler ce décret. Alors Esther lui a répondu, tout le monde sait qu'on ne peut pas aller comme ça chez Achashverosh. Parce que si on entre chez Achashverosh, sans qu'il vous ait convoqué, alors, dès que vous arrivez dans la pièce intérieure, vous êtes mort. Sauf s'il vous touche avec son sceptre d'or, à ce moment-là, vous vivez. Donc, il vous donne la vie, en quelque sorte. Or, moi, dit-elle, ça fait tout un mois, 30 jours, que je n'ai pas été appelé. Donc, peut-être il n'a plus tellement envie de moi, etc. Bon, donc, bon, si j'y vais, je vais subir le sort de tout le monde. Et alors, Mordechai lui répond à Esther, il fait répondre à Esther, surtout ne t'imagine pas un seul instant que tu vas, toi, rester planqué dans le palais lorsque nous, on va tous être tués et toi, tu vas t'en sortir. Ça ne se passera pas comme ça. Le sauvetage va venir pour les Juifs de d'ailleurs. Et toi et ta maison paternelle, vous serez perdus. Bon, alors, moi je pense que Mordechai, il fait ici un procès d'intention à Esther. Je pense que Esther n'a pas dit du tout qu'elle ne voulait pas y aller. Esther a seulement dit que il n'y a pas beaucoup de chances que ça puisse marcher, parce qu'a priori, je serais morte avant d'avoir réussi à ouvrir la bouche et de dire un seul mot. Mais Mordechai ne l'a pas entendu comme ça, il l'a entendu comme si elle voulait dire j'y vais pas. Et donc il lui fait des reproches terribles. Bon, ma femme, elle n'est pas d'accord que c'est un procès d'intention. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de la soutenir. Bon, c'est bon, pas nécessaire. Elle se défend très bien. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas toujours raison, hein, c'est... Je ne sais pas comment vous, vous interprétez ce qu'elle a dit. Moi, je trouve que Elle m'a seulement dit qu'il n'y avait pas de chance, pas beaucoup de chance que ça puisse marcher, c'est tout. En tout cas, Mandra, elle l'a pas pris comme ça. Et alors, il se passe quelque chose de très étrange. C'est que cette femme, Esther, qu'elle est entièrement obéissante à Mordechai, etc., soumise à Mordechai, tout à coup, dans les versets qui viennent, tout de suite après, c'est elle qui prend le. C'est elle le leader. C'est elle qui dirige. C'est elle qui donne des ordres à Mordechai. Elle lui dit qu'il doit aller dire aux Juifs qu'ils doivent jeûner 3 jours, nuit et jour, ni manger ni boire, nuit et jour, et qu'elle aussi, elle va jeûner en ces 3 jours, et ses servantes aussi, et c'est comme ça qu'elle ira chez Ahasvéros. La femme m'a dit que elle a entendu un enseignement qui dit que elle n'a pas jeûné 3 jours complets, elle a jeûné 3 jours moins 2 heures, parce qu'elle a mangé juste avant d'aller chez Ahasvéros. Alors je ne sais pas ce qu'il en est, je ne connais pas la source de. Non, c'est Rosenberg à Bourg, tu m'as dit Rosenberg. Et je ne sais pas s'il l'a dit, c'est qu'il a une source, je ne la connais pas, je ne l'ai pas vue. Mais bon, c'est pas. De toute manière, 3 jours, jeûner 3 jours, ce n'est pas la meilleure préparation pour aller séduire le roi, quoi qu'il en soit. Alors, ouais, ce qui s'est passé, c'est que elle y est allée et ça a marché. Quand on regarde le texte, on voit, elle avait dit que toute personne qui arrive dans la chambre intérieure, la salle intérieure était morte, sauf s'il la touchait avec son sceptre d'or. Mais le récit qu'elle fait de ce que la Torah fait, de la Megillah fait, de ce qui s'est passé pour elle, c'est pas très clair. Mais en tout cas, c'est elle qui a touché le sceptre. C'est pas le sceptre qui l'a touché, c'est elle qui a touché le sceptre. Et quelque part, c'était pas évident que c'est pas sûr du tout qu'il voulait la toucher. Mais il a eu une aide qu'il n'avait pas sollicitée, qui l'a obligée à la toucher. Et donc elle a vécu, survécu. Et il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Alors elle sait pas quoi. Elle sait pas. Il semble qu'elle ne sache pas quoi répondre. Ça, je me suis demandé si elle était tellement sûre que ça allait pas marcher qu'elle a même pas réfléchi à ce qu'elle allait dire. En tout cas, elle sait pas quoi dire. Peut-être que le sang, c'est pas mûr, quoi. Elle le sent pas. Alors elle lui dit, avec toute l'emphase avec laquelle il faut parler avec ce triste sire, là, elle lui dit, tu viens boire un pot chez moi demain. Et elle dit, avec Aman. Et alors, ils y vont, tout se passe très bien. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Alors, elle ne sait toujours pas quoi dire. Alors, elle dit, est-ce que tu peux venir demain? Demain, je te parlerai, je te dirai ce que je voulais te dire. Tu reviens demain avec Aman. Nous, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle avait comme projet? Pourquoi? Mais on est comme le roi Ahasvéros. Achashverosh, il se demande pourquoi elle a invité Aman avec lui. A priori, elle est venue pour une audience privée, c'est-à-dire pour une relation intime. Et elle fait, qu'est-ce que, pourquoi elle mobilise Aman aussi? Et le roi, il est tellement troublé qu'il ne peut pas dormir. Donc, dans la nuit qui précède le deuxième rendez-vous, il dort pas, il n'arrive pas à dormir. Il se demande, est-ce que il y a un complot? Est-ce que Esther et Aman vont s'allier contre moi? Et on est au milieu de la nuit. Il dit, il appelle un lecteur. Et le lecteur vient. Ce lecteur, c'est un fils d'Aman. Aman, il a déjà noyauté, il a des gens partout. C'est un fils d'Aman. Alors, auparavant, il faut que je répète, enfin, que je redise que. Après le premier rendez-vous chez la reine, Aman, il est rentré chez lui, il était heureux, comme c'est pas possible. J'ai été invité seul avec le roi chez la reine, et même demain, je suis aussi invité. Ouais, extraordinaire, formidable. Ouais, sauf que quand je sors là et que je vois ce juif Mordechai qui se prosterne pas devant moi. Ah, j'ai plus envie de vivre. Insupportable. Alors sa femme, elle lui dit, mais tu nous casses les pieds. Je veux dire, t'as qu'à dresser une potence de 25 mètres de haut et tu pends ce juif à cette potence. Ça, c'est une bonne solution d'une femme qui aime son mari et tout. Et alors il dit oui, ben il faut que je demande la permission au roi pour faire un truc pareil. Alors elle lui dit attention, t'as affaire à un juif. Il faut absolument que ce soit toi qui parle au roi demain matin, le premier. Parce que si un juif vient lui parler avant toi et il va venir avec des cadeaux, je sais pas quoi, après tu pourras pas demander la tête d'un juif une fois que le juif lui aura fait un cadeau. Donc il faut que tu sois le premier. Pour être le premier, comment on fait? Ben, il y va tout de suite, c'est le milieu de la nuit. Il va dans l'antichambre du roi pour être le premier. Oui, non, il a la potence, sa potence elle est faite, mais il faut l'autorisation du roi. Alors je reprends l'insomnie du roi. Le lecteur, et je vous rappelle le fils de Aman, il ouvre les archives, il commence à lire, il veut lire, mais ce qui se présente à lui, c'est le récit de ce que Mordechai a sauvé la vie du roi. Alors, il veut pas lire ça, il est le fils d'Aman. Alors il essaye d'ouvrir ailleurs, mais ça marche jamais, ça retombe tout le temps. Le livre s'ouvre toujours au même endroit. Et le roi, il dit, voilà, tu dépêche-toi de lire. Et donc il est obligé de lire et il lit. Il lit que Mordechai a sauvé la vie du roi. Alors le roi demande, qu'est-ce qu'on lui a donné comme récompense? Ben rien, on n'a pas donné de récompense. Alors Ahasvéros, il comprend qu'il faut qu'il lui donne une récompense. Mais il n'a aucune idée de ce qu'on peut donner comme récompense à quelqu'un qui a sauvé la vie du roi. Aucune idée. Louis XIV, Louis XV, eux, ils auraient su ce qu'il fallait donner. Un évêché ou une province ou, je ne sais pas, une armée. Et voilà que comme il ne sait pas, et on est au milieu de la nuit, il hurle, qui est dans l'antichambre? Comme si au milieu de la nuit, il y avait toujours quelqu'un dans l'antichambre. Mais là, manque de peau, enfin, par chance, Aman est dans l'antichambre. Qu'il entre. Et le roi demande à Aman, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour quelqu'un que le roi veut honorer, mais un grand truc pour quelque chose de très important. Alors, dans la Megillah, c'est écrit que dans son cœur, Aman se dit, qui est-ce qu'on pourrait bien vouloir honorer de cette manière, si ce n'est moi? Et donc, il va répondre sur quelque chose qui, lui, l'intéresse. Lui, de l'argent, il en a plein. Des honneurs, il en a plein. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut le trône. Alors, il dit comme ça. On va prendre le cheval royal. On va lui mettre tous ses attributs royaux. On va asseoir cette personne sur le cheval royal, avec lui aussi des vêtements que le roi a portés une fois. Et le cheval va être tiré au pas par quelqu'un d'important. Et alors le roi lui dit, très bien, merci beaucoup. Écoute, tu vas faire tout ce que tu viens de me dire là, au juif qui est à la porte du palais. Je vous dis pas la douche écossaise. Alors il faut, voilà, on va chercher Mordechai. Et Mordechai, je crois que c'est pas un secret d'État, c'est pas un super cavalier. Et le cheval du roi, il est très haut. Et Mordechai, il n'a aucune idée comment on peut monter sur un cheval pareil. Il ne sait pas. Il n'y arrive pas. Alors Aman va l'aider un peu. Ça ne marche pas. Finalement, on trouve une solution. Il faut que Aman se mette à genoux, qu'il lui serve de marchepied. Et donc Mordechai va monter sur Aman. Et de là et là, il va réussir à monter sur le cheval. Et c'est Aman qui va tirer le cheval, qui va le promener, etc. Je ne sais pas combien de chapitres de Tehilim Mordechai a dit pendant ce temps-là. Il dit s'il répétait des Mishnayot ou autre chose, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il était vraiment flatté de porter un vêtement que le roi avait déjà porté? Est-ce qu'il y avait un problème de chatenaise? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi il pensait. La fois, ce n'était pas une promenade de santé pour Mordechai non plus, mais bon. Et alors, bon, ça a tourné très mal pour Adam, pour Aman, parce que sa fille, elle n'a pas vu très clairement ce qui se passait, mais ce qu'elle a vu, elle a compris tout de suite, elle a interprété que le type qui était sur le cheval, ça doit être son père. Et le type qui tire le cheval, ça doit être Mordechai. Et donc, elle a fait ni une ni deux, elle lui a balancé sur celui qu'elle prenait pour Mordechai, elle lui a balancé le pot de chambre. C'est tombé sur son père. Quand elle a vu que c'était son père, elle a eu tellement honte qu'elle s'est suicidée. Et donc, bon. Il revient chez lui. Vous avez imaginé, toute la nuit, il s'est baladé, le début de la journée. Il arrive chez lui, il a à peine de temps de se débarbouiller, que les gardes arrivent et lui disent, hey, viens tout de suite, il faut aller chez la reine pour le rendez-vous. Et donc voilà, ils se retrouvent tous les trois chez la reine. Et de nouveau, le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux? Tu veux demander la moitié de ton royaume? Pardon? Oui, il demande à Esther, oui. Le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à la moitié de mon royaume, etc. Alors finalement, elle se lance. Elle dit, si c'était qu'une question d'argent, j'aurais rien dit. Mais il y a quelqu'un qui veut me tuer, qui veut tuer mon peuple. Et alors le roi dit, mais qui c'est qui ce type? Miouzé, c'est qui a osé une chose pareille? Alors, a priori, Esther, elle ne répond pas. Elle pointe du doigt le fautif. Elle pointe du doigt Achashverosh. Pourquoi? Parce que c'est Achashverosh qui a signé les papiers en question. Plus exactement, Aman a mis la signature d'Achashverosh sur ces papiers-là, puisqu'il avait le sceau du roi. C'est sûr que si ça s'était arrêté là, c'était la cata des catas. Parce qu'à ce moment-là, Aman aurait certainement tué le roi. Mais seulement il sait que la reine, elle est juive. Et les décrets anti-juifs, ils sont encore là, il n'a même pas besoin de se fatiguer. Il suffit de tuer la reine comme juive. Mais heureusement, le malheur Gabriel, il a bougé son bras, il a fait en sorte qu'elle pointe Aman. Ayant pointé Aman, alors Aman, il a essayé de se jeter aux pieds de la reine pour demander son pardon, etc. Et puis il y a un type, là, Harbona, qui s'appelle, qui est venu au secours de la victoire, là, qui a dit, oui, là, il y a une potence, là, de 25 mètres, à laquelle Aman voulait pendre celui qui a sauvé la vie du roi. Bon, c'était tellement servi sur un plateau. Alors Aman a dit, ben, pendez-le là-bas, là-haut, quoi. Pendez Aman. Arash Verosh a trouvé sur un plateau. Il a dit, pendez Aman à cette potence. Et c'est ce qu'on a fait. Après ça, Esther a dit qui était Mordechai et le roi a donné le poste de Haman à Mordechai, y compris le sceau. Donc Mordechai va prendre des décisions qui vont être signées, scellées à Achashverosh. Alors, Mordechai a dit à Achashverosh, et maintenant il faut annuler les décrets antisémites, anti-juifs. Alors, Achashverosh lui a dit, ah non, ça c'est pas possible. On ne peut pas annuler mes décrets. Comme il se prend pour Dieu, peut pas annuler les décrets divins. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va envoyer des contre-décrets, en quelque sorte. C'est-à-dire, on va envoyer des lettres aux Juifs, leur disant de se défendre. Avec l'accord du roi, ils peuvent tuer les gens pour se défendre. Alors, effectivement, ce jour-là, quand le jour est arrivé, ils se sont défendus, ils ont tué pas mal de goyim. Et à ce moment-là, Esther est allée voir Achvéros, qui lui a demandé, ah, tu sais, j'ai les statistiques, je sais exactement combien ils ont tué pas mal de monde, un peu partout. Qu'est-ce que tu veux encore? Alors elle le lui emballe, elle lui dit, je veux qu'on encore un deuxième jour comme aujourd'hui. On répète le coup. Pourquoi? Parce que et elle veut en finir, et surtout elle veut pendre les fils d'Aman. Parce qu'elle a compris que il s'agit d'éradiquer Amalek. Aman, c'est Amalek. Et donc il faut de tuer lui et aussi ses enfants. Donc on va tuer tout le monde, toute la famille. Ensuite, Mordechai et Esther ont décidé de faire une fête pour remercier Hachem de les avoir sauvés. Voilà, du coup, il y a des gens qui ont dit, ah, tu sais, nous, on habite dans des villes qui sont entourées de murailles. Et les gens qui sont avec nous dans ces villes-là, on les connaît, eux, ils nous auraient jamais fait de mal. Par conséquent, nous, on n'était pas vraiment en danger. Donc, il ne voulait pas participer à Purim. Alors, au début, Esther et Mordechai, ils ont pensé, OK, on va faire Purim avec la moitié des gens. Et après, ils ont dit, non, on ne va pas complètement couper le clan d'Israël en deux. Enfin, ils ont quand même fait quelque chose de spécial. Ils ont décidé que ces gens qui habitaient dans des maisons, dans des villes fortifiées, disons, ces gens-là, ils allaient faire Pourim le 15, pas le 14. Ils seraient décalés. C'est-à-dire que, bon, on ne peut pas qu'ils fassent rien du tout, on va leur imposer, mais décalés. Pardon?
Ils ne sont pas concernés par le sauvetage de Bourrine, on dégage un choix.
Non, ils ont voulu que ils peuvent pas faire on veut pas faire Pourim avec eux. Parce qu'eux, ils veulent pas. Mais dire qu'ils ne feront rien du tout, ça, ils n'ont pas voulu. Ils voulaient pas qu'il y ait un clan d'Israël, moitié de clan d'Israël qui fait rien. Alors, mais on veut pas faire avec eux. Alors, on a décalé. Les amis derrière. Vous ferez après que nous, on a fait le grand Pourim, vous ferez votre petit Pourim derrière. C'est ça l'idée. C'est des gens qui s'imaginent que non, qu'ils sont en très bons termes avec les goyim et que les goyim vont rien leur faire. C'est les gens du Sud qui pouvaient pas penser que les gens de Gaza auxquels ils avaient rendu service hier, ils ont amené leurs gosses à l'hôpital hier, et aujourd'hui ils viennent et les massacrent, les violent, les tuent. Ils brûlent. La deuxième intifada, les Palestiniens, ils ont, de gauche, ils ont mangé avec leurs copains palestiniens. Et le lendemain, ceux-là sont venus les tuer. Initialement, oui. Initialement, c'est fait pour ça. Et ben, c'est une lecture, en tout cas. Moi, personnellement, au début, je ne savais pas qu'il y ait cette histoire de. Enfin, il y a quelques années, je ne savais pas cette histoire qu'ils ne voulaient pas. Histoire que ces gens-là ne voulaient pas faire. Bon, c'est un midrash pour le moment que c'est pas tout le monde. Je me souviens même plus où j'ai vu ça, mais c'est comme ça. Et la question, c'est pourquoi on a pris comme référence avoir des murailles depuis l'époque de Yoshua. Alors là-dessus, Rabbi Shober de Boston, il disait que c'est parce qu'on ne voulait pas avoir une fête dans laquelle il n'y avait aucune allusion à Israël, à l'Eretz Israël. Et donc, par ce biais-là, on a dit des gens qui ont des murailles qui datent d'avant la conquête d'Eretz Israël par Yoshua. C'est une façon indirecte d'introduire Eretz Israël dans l'affaire. Ça, c'est ce que lui disait. Rabbi Sheva Absolovitch de Boston. Il dit que la raison pour laquelle on a choisi Yoshua Ben Nun, c'est pour avoir un remez de Eretz Israël dans une affaire qui n'a rien à voir avec Eretz Israël. Alors, il reste la question de savoir qu'est-ce que les trois derniers psukim viennent dire. Alors, je vous dis ce que pour l'instant je pense. J'ai pas trouvé de. Bon, j'ai trouvé personne qui parle de ça, mais bon, j'ai pas suffisamment cherché pour dire qu'il y a personne. Mais et la réponse que j'ai, elle est bon, ça peut se discuter. Moi, je pense que ce qui est dit là, qui n'a rien à voir avec sa place dans l'histoire de la Perse. Et on s'en fiche, je veux dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est en galoute, nous, on a l'impression qu'il y a des grandes choses qui se passent pour nous. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé pour nous, c'est gigantesque. On a échappé à une peine d'éradication du clan d'Israël. Mais en fait, ce qu'on veut nous dire avec ces trois derniers versets, c'est que faut pas croire que pour les goyim, cette histoire, elle a autant d'importance que pour nous. Pour eux, ce qui est arrivé là, c'est une petite virgule, un tout petit paragraphe dans l'histoire perse. C'est ça que ça veut dire. Ce qui est important dans l'histoire perse, c'est les décisions du pouvoir, c'est-à-dire décider un nouvel impôt, ça c'est important, de savoir qui est qui. Dans la hiérarchie, effectivement, par rapport au roi, etc. Ça, c'est important. On parle d'un juif, oui, alors, mais ce juif-là, il est important pour les juifs, il n'est pas tellement important pour nous. Et il a un soin, c'est pour les juifs, sous-entendu tout le temps, mais pas pour nous, etc. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Ah non?
Donc, une thérapie française, capable de faire la racine, capable
Ah, après,
de goûter bois de l'hypothèse.
oui, bon, mais ça, parce qu'ils ont cherché des thèmes, mais ça veut pas dire, c'est de la littérature, C'est une pièce, quoi. Ouais, t'as raison. Bon, mais je dis pas du tout que c'est l'explication. C'est l'explication que moi je me suis donnée pour l'instant. J'en ai pas de meilleure. J'ai parlé avec plusieurs personnes, personne m'a donné de.
C'est bien vrai que c'est encore l'histoire du pays, probablement c'est l'importance qui
Ça n'a pas d'importance, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que pour nous,
c'est
ce n'est pas important. C'est très important, mais il faut savoir que quand on est en galoute, on est dans un pays où cette histoire n'a pas tellement d'importance. Et ça, je pense que c'est important. Ça dit rien du contenu de la Megillah, mais ça nous dit qu'est-ce que c'est que cette Megillah, pourquoi c'est devenu un texte. Pour nous, c'est un texte qu'on a intégré au. C'est le 24e ouvrage dans le Tanakh, le dernier. Donc il joue un rôle très important, mais il faut être conscient que ça n'a pas une valeur universelle obligatoirement, quoi.
parce que ça risquait de devenir
Oui, non, mais bien sûr que c'était. Les Chachamim, ils étaient contre parce qu'ils ne voulaient pas qu'on nous accuse de se réjouir d'avoir tué les goïms, etc. Mais bon, Esther, elle a réussi à gagner, je ne sais pas pourquoi c'est elle qui a gagné. Elle a dit, moi je veux qu'on écrive ça, mais depuis quand la reine de Perse, elle a le droit d'imposer aux Chachamim d'intégrer ce texte qui n'a pas la mention d'Hachem. Bon, de ce point de vue-là, on peut aussi dire que c'est important. Quoi? Oui, mais pourquoi ça devient celle qui va décider qu'est-ce qu'on met dans le texte, dans le Tanakh? Alors, il faut savoir, c'est vrai qu'elle a été Moser Nefesh, comme tu dis, elle s'est sacrifiée. Maintenant, ce que je vous ai raconté sur le doigt qui a bougé, d'accord, c'est quand même pour qu'elle ne s'imagine pas qu'elle a, à elle toute seule, sauvé le clan d'Israël. D'accord? Elle s'est trompée. Alors, elle a eu le courage d'aller chez le roi. Après que Mordechai lui a dit, même s'il n'était pas sûr, c'est aussi très intéressant. Si j'avais été dans la situation de Mordechai, j'aurais dit à coup sûr, c'est pour ça que tu es devenue reine. Mais lui, il dit, Mi yodea im leet kazot. Qui sait si? Il n'est pas sûr. Moi, j'ai l'impression qu'on est sûr. Quoi? Oui, non, mais après coup, de quoi? Lui aussi, il est. Bon, c'est vrai que c'est avant, mais là, il voit bien que. Bon, on ne savait pas pourquoi elle a été choisie. C'est tout à fait miraculeux qu'elle ait choisi, elle est mariée, tout ce que tu veux.
Il était responsable de la génération, il avait l'impression que le pays allait disparaître.
Ben oui, alors là, il aurait pu lui dire, c'est sûr que tu dois y aller. Et là, il lui dit, tu dois y aller, même si seulement, peut-être c'est pour ça que que tu es devenue reine. Il dit pas, c'est sûr que tu es reine pour ça. Moi, j'aurais eu tendance à dire,